Vous écoutez, on lit pour vous.
Aux États-Unis, le côté absurde de la force. Un texte de Fabien Deglise paru le 22 octobre 2025 dans Le Devoir. Des licornes, des grenouilles, des girafes, des poules, un homard et des hot-dogs géants. Depuis plusieurs semaines, les costumes les plus absurdes se multiplient dans les manifestations organisées aux États-Unis contre le régime brutal de Donald Trump. Samedi le 18 octobre 2025, des centaines de ces personnages se sont ainsi exposés à travers le pays lors d'une mobilisation populaire dénonçant la montée de l'autoritarisme chez le voisin du Sud. Près de 7 millions de citoyens ont participé à ce mouvement, baptisé « No Kings », « Pas de roi ». Et ces accoutrements, apparus quelques semaines plus tôt dans les groupes dénonçant la répression d'agents de l'immigration dans plusieurs villes démocrates, laissent désormais des images persistantes et surtout tranchantes avec celles que cherchent à imposer les républicains pour dépeindre leurs opposants. La semaine précédente, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait mis en garde la population contre la déferlante de haine censée, selon lui, s'emparer des villes du pays, en évoquant la présence de marxistes, de militants d'Antifa, taxés de terrorisme par décret présidentiel et de l'aile pro-Hamas du Parti démocrate dans les manifestations du mouvement No Kings. Donald Trump, lui, justifie l'envoi de la garde nationale à Portland, à Chicago et à Washington en parlant de villes à feu et à sang sous l'effet d'une violence facilitée par les pouvoirs politiques démocrates locaux. Fin août 2025, Stephen Miller, conseiller du président et architecte de la radicalisation du pouvoir américain, a affirmé que le Parti démocrate se consacrait exclusivement à la défense des criminels endurcis, des membres de gangs, des tueurs et terroristes étrangers illégaux. Le Parti démocrate n'est pas un parti politique, c'est une organisation extrémiste nationale, a-t-il ajouté sur les ondes du réseau Fox News. Je m'attends à ce que ces costumes ludiques gagnent encore en plus en popularité, commente en entrevue Jonathan Michael Square, historien de la mode et spécialiste des mouvements sociaux à la New School de New York. Leur pouvoir symbolique et narratif est très fort, car ils viennent perturber le scénario d'une foule violente face à un État tout-puissant, et ils désamorcent les tensions en transformant une manifestation en jeu. Cet environnement vient alors déjouer la tentative du gouvernement de stimuler le chaos sur le terrain politique de l'opposition pour y justifier son déploiement de la force et l'instauration d'un régime de censure et de répression. Tuer le ridicule. Comme vous êtes ridicule en affirmant que nous sommes dangereux, nous allons rendre cela ridicule pour montrer à quel point vous êtes dangereux, a lancé récemment au républicain Brooks Brown, un activiste de l'État de Washington, pour expliquer cette irruption de personnages loufoques dans les foules. C'était sur les ondes de NBC. L'homme a lancé au début du mois une opération visant à distribuer des dizaines de costumes gonflables en forme de dinosaures, de coqs ou de grenouilles aux manifestants qui dénonçaient l'incarcération d'immigrants à Portland. L'absurde est le but poursuivi, a résumé le stratège démocrate Mike Nellis dans les pages du Washington Post. Tous ces militants du mouvement MAGA, Make America Great Again, se plaignent que ces villes sont sans loi, qu'elles sont dangereuses. Et c'est comme si vous confirmiez, par le ridicule, toute l'absurdité de ces affirmations. Le déploiement du ridicule dans un costume ou sur une pancarte pour dénoncer celui d'une politique, d'un acte gouvernemental ou d'un politicien ne date pas d'hier. En 2008, durant la primaire républicaine, le candidat Mitt Romney était régulièrement pourchassé dans ses apparitions publiques par un militant déguisé en Flipper le Dauphin qui voulait ainsi souligner les changements de position du politicien, surnommé alors Flip Romney, sur la question de l'avortement. Mais avec la prolifération des costumes gonflables absurdes depuis quelques jours, le phénomène passe désormais à une autre échelle, explique au Devoir Eilish Elzy, chercheuse au Center for Global Change and Media de l'Université du Texas à Austin. Selon elle, il attaque au passage Donald Trump là où cela fait le plus mal, la fragilité de son égo. Il n'aime pas être ridiculisé. Cela le blesse et montre qu'il n'a pas les nerfs assez solides pour occuper la fonction de président, ce que nous savions déjà, n'est-ce pas? Les manifestations étaient très limitées, inefficaces et les gens étaient démoralisés, a déclaré dimanche Donald Trump pour minimiser le dernier mouvement populaire organisé contre lui et ses politiques. Quand on regarde ces gens, on se rend compte qu'ils ne sont pas représentatifs de la population de notre pays. C'est impressionnant de voir comment ces manifestants trouvent constamment le moyen de se ridiculiser, a ajouté la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Abigail Jackson. La mascotte gonflable Trump Baby a été conçue par des militants britanniques en 2018. On la voit fréquemment lors de manifestations dénonçant le président américain, comme celle du 18 octobre 2025 à Los Angeles, dans le cadre de la journée No Kings. Arrow sur l'hypocrisie. L'humour est un instrument critique sérieux qui permet de désavouer les affirmations et les promesses des politiciens, la mise en scène des événements politiques ou l'hypocrisie et l'inefficacité des politiques, écrivait en 2022 un groupe d'universitaires allemands dirigé par Christian Penzold, professeur de communication à l'Université de Leipzig, dans un article publié dans les pages de l'International Journal of Communication. La valeur de l'absurde réside ainsi dans sa capacité à révéler l'idiotie implicite d'une politique par des moyens comiques, et c'est généralement le sérieux de sa cible qui rend un tel commentaire nécessaire et important. Un sérieux qui n'échappe pas aux manifestants qui opposent désormais leur mascotte gonflable à la volonté de Donald Trump de s'arroger des droits importants pour mater l'opposition dans son pays, au mépris même de la liberté d'expression et de l'état de droit. Au début d'octobre 2025, le populiste a indiqué qu'il pourrait en effet invoquer la loi sur l'insurrection, l'Insurrection Act, pour sortir le pays de ce qu'il qualifie de chaos et de violence. Une intention réitérée récemment pour donner aux Américains des villes sans criminalité, a-t-il dit. Je pourrais donc utiliser, si je le voulais, l'Insurrection Act et toutes ces absurdités disparaîtraient. C'est le pouvoir le plus fort dont dispose un président, et vous en avez le droit absolu, a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. L'Insurrection Act regroupe un ensemble de lois adoptées entre 1792 et 1871 qui autorise le président à mobiliser une milice armée ou des troupes fédérales sur le territoire américain pour permettre l'application de lois fédérales rendues impossibles par une rébellion ou une insurrection. Et face à l'exagération de la mesure évoquée par Trump, l'humour, par sa simplicité trompeuse, a certainement le potentiel qu'il faut pour mettre en relief ses accents autoritaires et antidémocratiques, estime Eilish Elzy. L'absurde ne peut pas tout résoudre. Il peut être aussi risqué, aussi, puisque l'on voit des personnes perdre leur emploi, être détenues ou expulsées pour avoir utilisé l'humour et dénoncé la montée du fascisme. Mais le pire, dans une situation pareille, serait de ne rien faire, dit-elle. Une mobilisation soutenue, des revendications claires, un travail politique sérieux, un plaidoyer juridique et, surtout, la création de coalitions doivent accompagner ce déploiement d'absurdes, sans quoi cet humour risque de se banaliser, ajoute Jonathan Michael Square. Et perdre par le fait même son étonnante force de contestation. C'était, aux États-Unis, Le côté absurde de la force, un texte de Fabien Deglise, paru le 22 octobre 2025 dans Le Devoir.
Pas de retraite pour les endorphines. Un texte de Marie-France Létourneau, paru à l'hiver 2026 dans Virage. Michel Jodoin n'a plus d'agenda depuis que la cidrerie qui porte son nom est dirigée par un trio d'entrepreneurs de la relève, dont fait partie l'un de ses fils. Et le réputé cidriculteur ne s'en plaint pas. Depuis 2 ans, il a plus de temps pour s'adonner à ses passions, la musique jazz, mais surtout le sport, et parfois même en version extrême. Si l'intérêt de Michel Jodoin pour le jazz est plus récent, sa dépendance aux endorphines, souvent surnommée « hormone du bonheur », ne date pas d'hier. Même à 68 ans, s'élancer à vélo de montagne sur les sentiers techniques de Moab, dans l'Utah, aux États-Unis, l'emballe encore autant qu'il y a 20 ans. « Je vais un peu moins vite et c'est un peu plus difficile, mais j'y trouve mon plaisir », explique-t-il. Il précise par ailleurs qu'il n'a pas encore remplacé sa monture par un modèle à assistance électrique, ce qui lui offrirait éventuellement la possibilité de mieux doser ses efforts. Celui qui a redonné ses lettres de noblesse au cidre québécois à partir des années 1980 n'a d'ailleurs pas l'habitude de faire les choses à moitié, que ce soit en affaires ou dans les sports. « J'ai besoin d'endorphines et de défis », fait-il valoir. « Quand je suis sur mon vélo de montagne, je ne pense à rien d'autre. » Collectionner les défis. Si le vélo est l'activité de prédilection de Michel Jodoin, il a néanmoins, à une certaine époque, troqué sa bécane pour ses bottes de randonnée pour s'attaquer au plus haut sommet de la planète. Parmi ses ascensions figurent l'Elbrouz en Russie, le Kilimandjaro en Tanzanie et la Aconcagua en Argentine. Il s'est ensuite mis à la course à pied. Inscrit à différents clubs de course, il s'y est fait de bons amis, avec lesquels il a participé à plusieurs marathons, dont ceux de Paris, Madrid et Édimbourg, en plus de ceux de Montréal, Québec et Ottawa. De là à participer à des ultramarathons, il n'y avait qu'un pas que Michel Jodoin a franchi en courant. Âgé de la cinquantaine à cette période, il a participé au Marathon des Sables, 250 km en 6 jours, au Maroc, ainsi qu'au Namib Desert Challenge, 220 km en 5 jours, en Namibie, petit pays aux confins de l'Afrique australe. Après avoir repoussé ses limites dans la chaleur torride du désert, et parce qu'il ne recule devant rien, il s'est aventuré dans la neige et le froid glacial du Groenland pour prendre part au Polar Circle Marathon. Avec le recul, l'entrepreneur à la retraite constate que ses défis, marqués par le dépassement de soi, ont constitué un des ingrédients de sa réussite en affaires. « J'ai beaucoup travaillé et c'était ma façon d'évacuer un peu de pression », dit-il. « Ça m'a permis de continuer ». Pour l'instant, Michel Jodoin est à ce point mordu du vélo de montagne qu'il se rend dans l'Utah à l'automne et y séjourne dans son motorisé, qu'il entrepose ensuite sur place pour mieux y retourner pendant l'hiver. Il en profite alors pour explorer les États plus au sud avant de repasser par Moab au printemps pour mouliner à nouveau dans les paysages de roches rouges, avant de reprendre la route du Québec. L'an dernier, il a même initié son petit-fils Nathan, 14 ans, au vélo de montagne, encore et toujours dans l'Utah. Un moment précieux. On n'en fait pas à peu près, lance avec un large sourire le pomiculteur de Rougemont, en Montérégie. Scénario de rêve. Michel Jodoin ne pouvait d'ailleurs rêver d'un meilleur scénario pour le transfert de l'entreprise qu'il a fondée en 1988. La cidrerie est restée dans la famille. Outre son fils Philippe, qui représente la 5e génération de pomiculteurs, David Jodoin et Jean-Philippe Lachapelle, respectivement son neveu et son gendre, ont également pris la relève. Si le nouveau retraité demeure disponible pour le trio de jeunes entrepreneurs, il peut maintenant donner libre cours à son besoin de bouger. L'agenda a pris le bord, s'amuse à raconter Michel Jodoin. Au début de 2025, il s'est rendu à Oman, au Moyen-Orient, dans le cadre d'un voyage de groupe où randonnées pédestres et visites culturelles étaient au programme. L'été dernier, il a visité la Côte-Nord au Québec. Il a également assisté à plusieurs concerts de jazz, son nouveau dada. Lorsque Virage l'a rencontré, le Globetrotter planifiait son prochain séjour à Maube avec sa conjointe, José Beauregard, également passionnée de vélo. « Le kitesurf me travaille aussi pas mal », lance-t-il. « Même chose pour les longues randonnées. Bref, une aventure n'attend pas l'autre. » Ces adeptes de sport carburent aussi, à leur manière, aux endorphines. Bruno Blanchette. Rien ne semble vouloir arrêter Bruno Blanchette. L'humoriste, auteur et globetrotter québécois de 61 ans, s'est mis à la course à pied il y a quelques années, et depuis, il enchaîne les défis et les podiums. Après avoir décroché 24 victoires en 2024, il s'est fixé pour objectif d'en obtenir 25 en autant d'événements en 2025. Et il n'a pas choisi la voie facile. La majorité de ses courses se déroule en sentier, en Thaïlande, où il habite, sur des distances supérieures à 42 km. Jacqueline Garraud. Championne du marathon de Boston en 1980 et olympienne, Jacqueline Garraud n'est plus dans la performance, mais pas question pour elle d'arrêter de bouger. Ralentie par une fracture de la hanche il y a 2 ans, Mme Garraud, 72 ans et originaire des Laurentides, demeure active. Selon les saisons, elle s'adonne à la marche nordique, au ski de fond, au vélo ou à la natation. Elle a couru son dernier demi-marathon à 69 ans. « L'important, c'est de trouver l'équilibre », dit-elle. Patrice Godin. Visage connu du petit écran, le comédien québécois Patrice Godin, 57 ans, a commencé à courir pour arrêter de fumer. Résultat, il a remplacé la nicotine par les endorphines. Il a désormais plusieurs courses d'endurance en sentier à son actif. Parmi celles-ci, le Bigfoot 200, un ultramarathon de 320 km dans l'État de Washington, aux États-Unis. Blessé en 2023, il continue à s'entraîner, mais avec l'objectif de conserver la forme, entre autres pour œuvrer comme pompier forestier, son nouveau travail estival. C'était « Pas de retraite pour les endorphines », un texte de Marie-France Létourneau, paru à l'hiver 2026 dans Virage.
Y a-t-il des peuples résistants aux microbes? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 octobre 2025 dans la presse. Un lecteur, Jean Pellerin, demande « Y a-t-il un peuple qui a généralement un système immunitaire plus efficace que les autres à travers le monde ?» Il y a des différences au niveau du système immunitaire entre les populations de différentes régions, mais il n'y a pas de peuple avec une résistance meilleure que les autres. Il y a des variations sur le plan génétique entre les individus quant au fonctionnement du système immunitaire et à la vulnérabilité aux différents microbes. Mais il y a aussi des variations entre populations, explique Maria Francesca Cortez, immunologiste de l'Institut de recherche à Val d'Hébron, en Espagne, qui publiait en 2021 dans la revue Microorganisms une étude sur l'évolution historique de la réponse immunitaire aux microbes de différentes populations humaines. Elle donne l'exemple des formes graves de la COVID-19. Certaines populations, notamment en Asie, y sont plus sensibles, dit-elle. Mais un système immunitaire plus résistant à certains agents infectieux peut parfois s'avérer plus vulnérable à d'autres. La docteure Cortés rappelle que les Européens ont amené dans les Amériques, à partir du XVIe siècle, des microbes devant lesquels les peuples précoloniaux étaient sans défense, comme la variole. Mais lors de leur colonisation de l'Afrique, les Européens étaient sans défense contre des maladies africaines comme la malaria. Une protection contre un microbe rend parfois vulnérable à une maladie non infectieuse, souligne-t-elle. Les Juifs séfarades d'Afrique du Nord, entre autres, sont souvent plus résistants que les Européens à la malaria. Mais le gène qui leur confère cette protection les rend vulnérables à un type d'anémie appelé falciforme, souligne l'immunologiste. Dans certaines situations, un avantage devient un désavantage, note-t-elle. Notre biologie est complexe et il est difficile de déterminer les liens entre ses avantages et ses inconvénients, même si on peut de plus en plus identifier les polymorphismes génétiques responsables des vulnérabilités aux infections ou à leurs formes graves. Un polymorphisme génétique est un ensemble de mutations génétiques qui confèrent vulnérabilité ou protection face à des infections ou des maladies. Le pouvoir de l'immigration. Quelles sont les prochaines questions à éclaircir pour les chercheurs qui tentent de comprendre les différences immunitaires entre les populations ? Nous sommes au seuil d'une révolution technologique en médecine et en infectiologie, répond la docteure Cortés. On va pouvoir faire des liens quant au risque de maladie avec les profils individuels au niveau de la génétique et des protéines. C'est de la science omique, explique-t-elle, qui consiste à analyser et cartographier un ensemble biologique pour comprendre comment les éléments interagissent entre eux. Cette révolution nécessitera beaucoup de recherches opérationnelles pour se concrétiser. Ça va donner de la médecine personnalisée, précise-t-elle. On va pouvoir déterminer la vulnérabilité individuelle aux infections et les solutions personnalisées au lieu de se fier à une présentation générale des symptômes. On va pouvoir avoir un traitement sur mesure au lieu d'un traitement générique pour toutes les personnes qui ont certains symptômes et qui font partie d'une certaine population. De toute façon, la docteure Cortés s'attend à ce que dans une grande partie du monde, l'immigration et les mariages interethniques diminuent les différences dans les réponses immunologiques entre les populations des différentes régions du monde. En savoir plus, du journal méditerranéen d'hématologie et de maladies infectieuses. 10 fois correspond à la diminution du taux de mortalité de la malaria chez les gens ayant des gènes de susceptibilité à l'anémie falciforme. 2 fois correspond à l'augmentation de la prévalence de l'anémie falciforme chez les gens ayant des gènes de susceptibilité à cette maladie. C'était « Y a-t-il des peuples résistants aux microbes ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 octobre 2025 dans la presse.
La confusion autour des dates « meilleur avant » coûte cher aux Québécois. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 18 novembre 2025 dans Le Devoir. Chaque année, les ménages québécois jettent en moyenne 300 $ de produits alimentaires encore comestibles, souvent par confusion autour des dates meilleures avant. Au lieu de les voir comme un repère de fraîcheur, beaucoup les interprètent comme un verdict strict de salubrité. C'est ce que révèle une nouvelle étude du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, commandée par l'entreprise Too Good To Go, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Le laboratoire, qui a sondé plus de 1000 personnes en ligne en janvier 2025, évalue que chaque ménage québécois perd annuellement l'équivalent de 604 $ en denrées périmées, un gaspillage qui pourrait être réduit de moitié, 48%, si les consommateurs se fiaient davantage à leur sens. À l'échelle canadienne, cette confusion entre date meilleure avant et véritable date de péremption entraînerait le gaspillage de 246 $ par foyer par an. On se doutait que les dates meilleures avant poussaient des gens à jeter des produits encore bons, mais je ne pensais pas qu'autant de Québécois s'y fiaient exclusivement pour décider de consommer un aliment ou non, explique le directeur principal du laboratoire, le professeur Sylvain Charlebois. Selon l'étude, 74% des Québécois utilisent essentiellement ces dates pour décider s'ils mangeront ou jetteront un produit. Parmi les autres, 69% ont le réflexe de goûter, de sentir ou d'observer l'aliment pour évaluer sa comestibilité. Pour rappel, la date meilleure avant indique la période pendant laquelle un produit non ouvert conserve sa fraîcheur, son goût et sa valeur nutritionnelle. Elle n'indique pas sa date limite de salubrité,
précise l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les produits dont la durée de conservation dépasse 90 jours ne nécessitent d'ailleurs pas de mention « meilleur avant ». Un tiers des Québécois ignorent toujours ces nuances et beaucoup continuent de jeter systématiquement les produits dont la date « meilleur avant » est atteinte par crainte de s'intoxiquer. Sans surprise, les poissons, les viandes et les produits laitiers sont les premiers à atterrir à la poubelle. Serait-il temps de revoir ce système? Le problème, c'est qu'il y a peu de volonté à vouloir éliminer ces dates, autant chez les consommateurs que dans l'industrie, souligne M. Charlebois. Le « meilleur avant » est une forme d'obsolescence programmée dans le secteur. On pousse les gens à jeter et racheter. Sensibiliser le public. Le professeur note tout de même un changement des mentalités. La population est aujourd'hui plus ouverte à consommer et à acheter des produits après leur date meilleure avant. Il donne l'exemple des chaînes d'épicerie de liquidation, Liquidation Marie, par exemple, dans la grande région de Montréal, qui se multiplie depuis quelques années. L'inflation alimentaire contribue à cette tendance. Selon l'étude du laboratoire de l'Université Dalhousie, 61% des répondants indiquent que le coût des aliments joue dans leur décision de consommer des denrées après leur date meilleure avant. D'autre part, 71% affirment vouloir réduire le gaspillage alimentaire pour des raisons économiques et 43% pour des considérations environnementales. Nicolas Dott, gestionnaire des relations publiques pour Too Good To Go Canada, constate aussi cette évolution. L'entreprise danoise arrivée au Québec en 2021 vend à prix réduit des paniers surprises d'aliments excédentaires d'épicerie, de restaurants, de boulangeries et de divers magasins alimentaires. D'après M. Dott, 3 paniers surprises par minute sont désormais sauvés au Québec, contre 2 par minute en 2024. Il plaide pour davantage de sensibilisation et cite la campagne « Observer, santé, goûter » lancé l'an dernier par Too Good To Go, qui encourage les gens à utiliser leur sens plutôt que la date meilleure avant. Il faut mieux informer les consommateurs, les rassurer, leur faire comprendre que ces dates ne sont pas basées sur des algorithmes ultra-scientifiques. Ils doivent faire confiance à leur bon sens, souligne Sylvain Charlebois. C'était La confusion autour des dates meilleures avant coûte cher aux Québécois, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 18 novembre 2025 dans Le Devoir.